Vous êtes sur RTL.
Presque 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Accusé Donald Trump, levez-vous. La Chambre des représentants doit voter aujourd'hui la destitution du 45e président des États-Unis. Son crime, avoir tenté de faire pression sur son homologue ukrainien pour affaiblir son rival Joe Biden. Ça s'appelle un abus de pouvoir, une première victoire pour l'opposition démocrate. Et qui n'a, disons-le tout de suite, bonjour Philippe Corbet.
Bonjour.
Aucune chance d'aboutir, mais quel symbole.
Oui, il va entrer aujourd'hui dans les livres d'histoire, car depuis la naissance des États-Unis, seuls deux présidents ont été impeached, comme on dit ici, renvoyés devant le Sénat, où va donc se tenir bientôt un procès. Au moins deux démocrates de la Chambre refusent de voter avec les autres représentants de leur parti, mais aucun républicain ne devrait voter le renvoi. Jusque-là, environ un Américain sur deux soutenait l'impeachment et même son départ du pouvoir. Mais les sondages ces derniers jours montrent que ce soutien fléchit. La démonstration des démocrates n'a pas convaincu une bonne partie de l'Amérique qui reste indifférente. Alors que la procédure fait la une ici depuis 3 mois, les auditions de nombreux témoins ont été diffusées pendant des dizaines d'heures sur toutes les grandes chaînes en édition spéciale. Il y a eu cette nuit des rassemblements anti-Trump dans de nombreuses villes, de Los Angeles à New York, pour appeler à ce qu'il soit chassé du pouvoir. Contre l'avis de ses avocats, il vient d'envoyer une longue lettre au lance-flammes à la présidente de la Chambre. Il l'accuse d'une tentative de coup d'État et se plaint d'être plus maltraité que les sorcières de Salem qui ont fini pendues.
Philippe Corbet, et hasard du calendrier ou pas, le médecin de Joe Biden coupe court aux rumeurs sur son état de santé. L'ancien vice-président d'Obama est un homme de 77 ans, vigoureux et qui est apte à assumer les devoirs de la présidence, dit le communiqué. On apprend juste que le candidat à l'investiture démocrate souffre, je cite, de reflux gastro-œsophagien.
C'est important. En France, le balai des négociations reprend cet après-midi à Matignon sur la réforme des retraites.
Mais pour l'instant, la galère continue chaque jour pour aller au boulot et depuis hier pour organiser ses départs en vacances. Il y a ceux qui pourront prendre un train et tous les autres, ceux qui doivent se débrouiller, c'est le mot de la SNCF, c'est un tiers des voyageurs. Et vous êtes avec eux, Gare du Nord à Paris, Nicolas Burnand. Il y avait déjà du monde avant l'ouverture des guichets.
Oui, une longue file s'étire dans le hall de la gare avec ces dizaines de voyageurs qui attendent devant les guichets encore fermés. Ce week-end, Virginie doit se rendre à Gap pour les fêtes, mais son train de nuit est annulé.
J'ai essayé sur Internet et j'ai cliqué sur échanger mon billet et ça marchait pas. Donc, il fallait que je vienne pour échanger directement, faire tous les trajets à pied dans Paris. Et là, en plus, pas pouvoir partir, ça commence à être long.
Durant près de 2 heures, Patrick a lui aussi tenté de joindre au téléphone la SNCF sans succès. Il part demain pour Pau et il a décidé de changer d'itinéraire.
J'ai vu qu'il y en avait un à 8h-10 qui fait Paris-Dax. Bon, j'espère qu'on me laissera monter, hein, que je pourrai le prendre. Il y a un climat de pesant. Ça m'embêterait de rester seul à Paris. Besoin de souffler, oui, de changer d'air un peu.
Beaucoup de voyageurs comme Sandrine ne savent toujours pas s'ils pourront partir en vacances la semaine prochaine. Elle estime que la grève contre la réforme des retraites doit s'arrêter pour Noël.
Moi, je pense qu'il faut une trêve. C'est important de revoir sa famille. Les gens, les familles ne vont pas payer pour ceux qui veulent à tout prix garder leurs avantages. Moi, je préférais garder ce qu'on a actuellement, mais c'est très compliqué de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Il faut évoluer.
Toute la journée, cette Parisienne aura les yeux rivés sur son smartphone au cas où elle recevrait un SMS et une mauvaise nouvelle de la part de la SNCF.
Merci Nicolas Burnand, Gare du Nord à Paris. Alors pas de trêve pour les fêtes, a prévenu hier soir l'intersyndicale. Trafic toujours très perturbé sur les rails. On assiste aussi à de nouvelles formes de mobilisation. À Nice, ce matin, des manifestants ont bloqué les départs et les arrivées de camions sur le parc d'activité logistique Saint-Isidore. Ça a duré 3 heures. Christophe Pandelli, représentant Sudrail.
C'était une opération coup de poing et il y en aura d'autres. Nous, cheminots, on va durcir le mouvement maintenant pour se faire entendre par le gouvernement. On est là pour bloquer l'économie. Donc là, c'est une petite opération coup de poing. Il y a eu ici, il y a eu à Drape et il y en aura d'autres dans les jours à venir.
Pas de trêve à Noël ?
Ah, il est hors de question de faire la trêve. On va pas aller travailler. Moi aussi, je suis gêné par cette grève. Puisque moi, j'ai ma famille. Moi, je suis du nord de la France. Je vais passer Noël tout seul aussi. Il faut que le gouvernement comprenne que nous, la trêve de Noël, il en est hors de question. Et d'ailleurs, c'est pas de notre faute. C'est lui qui a posé ça au mois de décembre. Il aurait pu attendre plus tard pour le faire.
Un propos recueilli par Mickaël Lefebvre à Nice. Opération coup de poing aussi de la CGT Énergie. Hier, plusieurs dizaines de milliers de foyers ont subi des coupures de courant en Gironde, dans le Rhône, mais aussi à Paris. D'autres actions sont prévues pendant les fêtes, comme le passage en heure creuse pour les particuliers, ce qui leur assure un tarif avantageux et un beau manque à gagner pour les fournisseurs. RTE porte plainte.
RTL Matin, 8h04.
Et un homme est en première ligne pour tenter de dénouer cette crise sociale, c'est Édouard Philippe.
On vous retrouve, Vincent Derosier. Le Premier ministre reçoit les syndicats à partir de 14h30 tout à l'heure, épaulé d'un petit nouveau, inconnu au bataillon, le député LREM du Nord, Laurent Pietraszewski. C'est lui qui remplace Jean-Paul Delevoye. Avec lui, au moins, il n'y aura pas de vague.
Et pas d'entourloupe politique non plus. Laurent Pietraszewski n'est pas un frondeur. Il a plutôt le profil du bon élève et parfait technicien. Ses collègues l'appellent Pietra, comme la bière corse. D'ailleurs, ce passionné de foot et supporter du LOSC accompagne toujours ses déjeuners d'un demi. L'Élysée promettait de dénicher une perle rare pour remplacer Jean-Paul Delevoye. C'est plus un expert et bon négociateur que le président a choisi. Il y a 3 ans encore, il ne connaissait rien à la politique. Le député travaillait dans les ressources humaines pour la grande distribution. Il fait partie de ces parlementaires qui ont eu le coup de foudre pour Emmanuel Macron en 2016. Et justement, la vie est bien faite. Il sera assis à la même table que lui tout à l'heure au Conseil des ministres. Et puis après, avec Édouard Philippe à la table des négociations cet après-midi. Mais les projecteurs ne seront pas braqués sur lui. Cette nomination prouve qu'Édouard Philippe veut désormais incarner tout seul la réforme des retraites.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Vincent Derosier. Dans le reste de l'actualité, ce rendez-vous judiciaire dans l'interminable affaire Grégory, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris examine la validité de la garde à vue de Muriel Boll en 1984. Elle était mineure, elle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter. L'annulation de cette garde à vue pourrait remettre en cause une bonne partie de l'enquête. À Lyon, cette information RTL de Guillaume Chiez, dans le premier arrondissement, vers 1h du matin, un jeune homme de 21 ans a voulu s'interposer alors qu'un autre était pris à partie par 2 individus. Il a été roué de coups de pied et de poing. Il est transporté à l'hôpital en urgence. Son pronostic vital est engagé. Le motif de l'altercation initiale reste à déterminer. Enfin, Fiat et PSA officialisent leur union. Le nouveau groupe automobile devient le numéro 4 mondial avec plus de 400 000 salariés.
RTL Matin, 8h06.
Dans un court instant, la sortie du dernier Star Wars, dernier épisode de la saga, en tout cas officiellement. On va voir si c'est vraiment le cas avec Stéphane Boutsock.
RTL Matin.
8h07, suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
The Rise of Skywalker, c'est le nom du dernier épisode de la saga Star Wars qui sort donc aujourd'hui au cinéma.
Les fans n'en pouvaient plus d'attendre. 42 ans après ses débuts, l'épopée imaginée par George Lucas affiche le mot fin, the end, sur les écrans.
Mais est-ce vraiment le dernier épisode de la très rentable saga? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
On en a vraiment fini avec l'épopée de Luke Skywalker?
Alors, pour Luke Skywalker, Han Solo, la princesse Leia, Chewbacca et les autres personnages qui nous accompagne depuis 1977, c'est clairement la fin du voyage, à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, vous les croiserez tous dans cet épisode 9 qui clôt l'aventure avec brio, modestie et nostalgie. Mais pour Star Wars, c'est loin d'être fini, le calendrier est déjà fixé, décembre 2022, un nouveau film débarquera sur nos écrans, puis un autre en 2024 et un troisième en 2026. On ne sait pas encore s'il s'agira d'une nouvelle trilogie ou d'aventures séparées, mais tout se déroulera forcément dans une lointaine galaxie très lointaine. Les sources d'inspiration sont infinies. Il existe d'autres époques racontées dans des romans parus au fil du temps et une consacrée à une mystérieuse ancienne république qui passionne les fans purs et durs.
Est-ce que Disney, qui a racheté la marque Star Wars en 2012, a rentabilisé son investissement?
Alors vous savez, ça fait très longtemps que les 4 milliards de dollars mis sur la table pour racheter l'Empire Lucas ont été rentabilisés. Les épisodes 7 et 8 ont quasiment remboursé l'investissement, mais ce sont surtout les produits dérivés qui remplissent les caisses, de la panoplie au verre à moutarde en passant par le sabre laser ou les cartables. Des milliers de licences ont été vendues. Un parc à thème Star Wars ouvrira en 2025 à Marne-la-Vallée avec notamment une réplique grandeur nature du Faucon Millennium, comme en Floride ou en Californie. Et puis, dès le printemps, Disney Plus arrive dans nos télés, une plateforme payante avec, pour les futurs abonnés, tous les films de la saga, des dessins animés et des séries inédites tirées de l'univers Star Wars, dont une en préparation consacrée à Obi-Wan Kenobi.
La question du 8h avec Stéphane Boutsock. Alors, tout sur le film, sa sortie et la saga à 9h dans Laissez-vous tenter. À tout à l'heure.
Stéphane. À tout à l'heure.
Et en football, la saga Coupe de la Ligue avec Reims et Ligue, premier club qualifié pour les quarts de finale. Les huitièmes se poursuivent ce soir avec notamment le PSG qui se déplace au Mans et Lyon qui reçoit Toulouse. Autre rencontre à suivre de l'autre côté des Pyrénées, le Classico Barça-Real Madrid.
Alors, ce n'est pas la guerre des étoiles, mais c'est notre saga à nous. Hein. Pendant les fêtes sur RTL, eh bien, les coulisses de Noël.
Après les Santons de Provence, oui, les marrons glacés de l'Ardèche, plongeons-nous à présent dans l'arrière-boutique de la marque Santosphère, spécialisée dans la fabrication de parfums, de savons, de bonbons. 2,5 millions de boîtes sortent chaque année de l'usine Saint-Arnoux dans les Yvelines. On ouvre grand les narines et on suit Sophie Orange.
Pas une minute à perdre pour remplir les boîtes, les conditionner. Sous nos yeux et ceux de Véronique Devoise, la créatrice de Santosphère, des boîtes de bombes de bain de toutes les couleurs.
Ici, donc nous sommes sur une chaîne de conditionnement où là, on ne peut rien automatiser. Nous produisons là à peu près à une cadence de 2000 boîtes à l'heure ce produit. Il y a environ 20 personnes sur la chaîne. Et puis après, on va passer sur d'autres produits. En ce moment, on fait les réassorts pour Noël. Peut-être que tout à l'heure, nous allons passer sur des bougies cristal, un kit pour réaliser des parfums comme l'atelier de parfum. Et donc il y a beaucoup de monde, ça demande beaucoup de dextérité.
C'est pour ça qu'on ne va pas les déranger pendant qu'elles travaillent.
Non, mais vous pouvez en revanche interviewer Florian qui dirige l'usine.
Bonjour, un directeur d'usine qui met aussi les petits flacons dans les boîtes, qui tient la chaîne aussi.
Oui, exactement, on fait tout. De toute façon, c'est la période de Noël, donc aller au mieux pour permettre de faire une belle saison.
Après, la boîte, une fois qu'elle est remplie, vous vérifiez, hop, là ça sonne.
Oui, ça sonnait, oui.
Je vous ai vu vous précipiter.
Oui, oui, on a un peu couru là parce qu'il y avait une boîte mal fermée.
Non, je vous laisse pour y aller là.
Oui, là ça va être chargé aujourd'hui.
On va quand même tenter de s'approcher un peu plus. On ose à peine déranger toutes celles qui remplissent les boîtes. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous?
Je mets les couleurs et les pipettes pour les savons dans la boîte, à leur remplacement.
Et l'avantage en plus du Made in France, c'est que les commandes peuvent être honorées jusqu'à la dernière minute. Les coffrets qui défilent devant nous seront demain ou après-demain dans les magasins. Juste à côté de la chaîne de conditionnement, le laboratoire secret de Santosphère.
Ici, vous avez toutes les matières premières aromatiques, du fenugrec par exemple, pour avoir une odeur de noix. Nous allons avoir des essences de bergamote, de citron, des absolus de rose que l'on va mettre dans l'atelier de parfum, des essences de poivre, de la banane ou la fraise des bois.
Ces essences liquides vont être solidifiées puis mises dans une petite capsule pour que les enfants puissent jouer avec. 500 références, 2,5 millions de boîtes sortent chaque année de cette usine, désormais trop petite. 18 salariés travaillent ici toute l'année, mais deux ou trois fois plus depuis le mois d'août pour préparer Noël.
Sophie Orange chez Santosphère.
On termine avec l'histoire du jour.
Oui, sans transition, le fromage qui pue.
Ah bon ?
En Allemagne, un tribunal de Munich a tranché un litige opposant une fromagerie à une voisine qui se plaignait de l'odeur. On a coupé la poire en deux. La dame aura le droit de dénoncer publiquement le magasin, de dire tout le mal qu'elle en pense, mais elle n'aura plus le droit d'apposer, comme elle le faisait jusqu'à présent, dans la rue des autocollants pour critiquer son odorant voisinage. Il a donc fallu qu'un tribunal tranche dans cette affaire qui dure depuis plusieurs années.
Je vous remercie de cette information absolument primordiale.
Nécessaire.
C'était le journal de Jérôme Florin.